There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut à tous, c'est Amine de retour pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On s'approche de la fin de nos previews avec le format « Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre ?». Je vous le rappelle, le concept de ce format, on met en avant les trois faiblesses d'une franchise pour accéder au Graal, le titre NBA, et on met un petit peu plus de contenu là-dedans. Aujourd'hui, pour s'attaquer à un très gros morceau, à savoir les Bucks de Milwaukee, qui de mieux pour parler de la franchise de Giannis Antetokounmpo que Ben. Ben, comment ça va aujourd'hui?
Ça va. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas été dans cette position-là de réagir, d'analyser la franchise. Donc ça va très très bien. On arrive au bout là du marathon, donc on est fatigué. Certains l'ont remarqué sur YouTube. Oui, on est fatigué, mais ça va. Toujours un peu d'énergie pour parler des Bucks.
Oui, les Bucks de Giannis Antetokounmpo ou de Doc Rivers, on en parlera aujourd'hui un peu plus longuement. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner sur les plateformes de podcast et sur YouTube et sur Twitter pour ne rien manquer. N'hésitez pas évidemment à nous mettre 5 étoiles et un commentaire si le cœur vous en dit. Ben, dire que la saison des Bucks a été mouvementée, ça serait un doux euphémisme. Alors aujourd'hui, et à ta demande Ben, on va prendre tout notre temps pour faire le résumé de la saison des Bucks parce que ça va nous aider à en expliquer notamment les faiblesses. Donc pour les Bucks, on va remonter jusqu'à quand? On va remonter peut-être dès l'élimination face aux Heat l'année dernière en playoff ou passe pas aussi loin Ben?
Eh bien moi je pense qu'il faut remonter aussi loin. Tu l'as dit, on en est maintenant à 18. Preview avec celle-ci, et des 18, je pense que c'est celle où l'intersaison est la plus importante. Clairement, il faut remonter les 12 derniers mois des Bucks pour comprendre dans quel état est la franchise actuellement. Alors, pour éviter que ça soit trop lourd et pour éviter que je fasse une espèce d'explication des 12 derniers mois, j'ai décidé de faire ça de manière assez interactive. Amine, pour qu'on en arrive, j'espère, à la même conclusion, toi et moi, c'est que les Bucks n'ont pas forcément fait que des mauvais choix, mais à chaque fois qu'ils ont dû prendre une décision, le résultat le plus négatif s'est matérialisé. Revenons donc à cette série de playoffs. Ils perdent contre le Heat 4-1. Bon alors, déception totale, le Heat marche sur l'eau. Bon, on ne va pas remonter si loin. Bud est viré. Première décision à prendre en compte. Contexte. 50 Budenholzer, on en avait parlé à l'époque, bilan extrêmement ronflant, hein, 271 victoires, 120 défaites, très bonne équipe de saison régulière, un titre, des runs de playoff un peu décevants. On a vu des limites au coaching de Budenholzer, la sensation d'une équipe en fin de course, c'est un coach qui a perdu son frère dans la série de playoffs, donc des problèmes perso, est-ce qu'il voulait continuer à coacher? On ne sait pas. Et enfin, on était à l'aube d'une intersaison où Chris Middleton avait une player option, Brook Lopez était en fin de contrat et il y avait quand même en arrière-plan la question de la prolongation de Giannis. Donc, question, par rapport à tout ce que je lis en ce moment sur Twitter, est-ce que au moment de la décision, virer Budenholzer, c'était vraiment une mauvaise idée, Amine?
Alors, je pense pas. Je pense que quand tu reviens en arrière, évidemment, tu te poses la question parce que est-ce qu'aujourd'hui ils ont un meilleur coach que Budenholzer? Est-ce que cette saison ils ont eu un meilleur coach que Budenholzer? Je ne pense pas. Mmh. Mais au moment où ça est arrivé, et tu l'as dit, mine de rien, c'est pas quelque chose de si peu important. Les raisons personnelles de Budenholzer ont dû jouer beaucoup. Mmh. On l'a senti très affecté lors des playoffs l'année dernière. On était tous à peu près d'accord pour dire que Budenholzer était un très bon coach, notamment régulière, un coach qui mettait en place un système qui ne préparait pas grand-chose d'autre pendant la régulière, qui était peut-être son grand défaut, et qui avait aussi des rotations qui étaient très, très fixé, qui ne bougeait pas beaucoup en playoff. On pense notamment au minutage de sa superstar, Giannis Antetokounmpo, qui ne dépassait rarement les 35 minutes, même en playoff. Ce qui fait que, au final, c'est un peu facile de dire aujourd'hui qu'il aurait fallu garder Budenholzer. Je pense que, comme tu l'as bien dit, c'était la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. Est-ce que les décisions qui en ont découlé ont été bonnes? Ça, c'est une autre question.
Donc, si on part de cette décision qui est justifiable, qui est le résultat n'est pas bon, mais le process est compréhensible. On a ensuite l'embauche d'Adrian Griffin. Pour moi, le plus gros problème des 12 derniers mois se situe là. C'est pas l'embauche d'Adrian Griffin, c'est le veto de Giannis quant à l'embauche de Nick Nurse. C'est là où se situe l'erreur des 12 derniers mois. Je tape dans mon micro. J'adore Giannis. C'est une erreur. Je pense que c'est une erreur grandiose. Le profil d'Adrian Griffin en lui-même, c'est un assistant qui avait plutôt bonne réputation, qui avait fait des choses du côté de Toronto, qui avait de l'expérience, qui avait déjà connu Milwaukee. Encore une fois, c'est justifiable comme choix à cette époque-là. Surtout, rappelons le contexte, dans un contexte où tu penses que tu es peut-être dans une phase de réoutillage, peut-être, où tu as peut-être certains vétérans qui vont peut-être partir. C'est justifiable. Donc, tu es sur deux décisions. Ok, elles vont te coûter cher après, mais à l'instant, on peut les justifier. L'été se passe, Chris Middleton re-signe, Brook Lopez passe à, c'est même pas deux doigts, je sais pas, un ongle d'être à Houston. Damien Lillard arrive. Trade totalement inattendu. Encore une fois, Amine, on est d'accord que tu trades pour Damien Lillard. C'est un trade que tu fais tous les jours. Donc, le coach rookie, assistant, qui était peut-être ancien assistant, qui était dans une phase de réoutillage, se retrouve avec une équipe qui est complètement court-termiste, avec une superstar assez âgée, qui en plus, personnellement, dans la vie, enfin Lillard l'a dit toute la saison, c'est pas ouf. Donc déjà là, il y a entre le plan de départ et le plan d'arrivée, il y a un problème. Là où je pense, avant de le critiquer sévèrement, que Griffin a fait un bon diagnostic, c'est qu'il a réussi à comprendre que cette équipe-là, avec Damien Lillard et Malik Beasley sur le backcourt, ne peut plus être une défense top 5 comme elle était avant. Il faut gagner en attaque. Mon problème avec Adrian Griffin, c'est à peu près tout le reste. C'est-à-dire que la communication est catastrophique. Terry Stotts part avant le début de la saison. Et ça a été clairement dit, c'est parce qu'il y avait des gros problèmes en interne et que visiblement, il était un petit peu têtu, Adrian Griffin. Les joueurs, le nombre de fois où il y a eu des conférences de presse un peu lunaires du côté de Milwaukee. Il y a un match après à Houston dans un road trip où Giannis, visiblement d'après Eric Nam de The Athletic, pendant 7 minutes, désingue tout le vestiaire, tout le monde. Bobby Portis a aussi remis en cause le coach en marge du in-season tournament. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été pas vraiment intéressantes, et en tout cas beaucoup de dysfonctionnements sous l'ère Adrian Griffin, ce qui fait que, malgré le bilan ronflant, que j'expliquerai après, qui selon moi est extrêmement trompeur, 30-13, il est viré. Question, Amine. Et là, je vais bien préciser ma question. Est-ce que le limogeage d'Adrian Griffin ne se justifie pas?
Mais oui, bien sûr que si. Bien sûr que si, que quand un coach perd son vestiaire, tu n'as pas d'autre choix que de t'en séparer parce que tu ne peux pas continuer dans ces conditions. Même si l'équipe tourne, ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir conserver un coach qui n'a plus du tout l'aval de son vestiaire et qui est même, on a l'impression qu'il était vraiment mis en porte-à-faux, mis à défaut par son vestiaire. Donc oui, c'était évident qu'il fallait virer Adrian Griffin.
Alors, j'expliquerai très rapidement, et je le ferai dans une partie du podcast, mais pourquoi ce bilan est trompeur ce mois, parce que j'ai encore vu un tweet par rapport à ça, expliquant que le net rating des Bucks est meilleur sous Griffin que sous Doc. Très rapidement, il avait un des 5 calendriers les plus faciles en début de saison, Adrian Griffin. Le calendrier sous Doc est beaucoup plus exigeant. En termes de présence des meilleurs joueurs, si on prend le top 3, le fameux Big 3, Middleton, Giannis, Lillard, c'est 540 minutes sous Griffin, 176 sous Doc. Middleton a été énormément blessé et on viendra sur d'autres choses, genre le fait que Malik Beasley a décidé d'arrêter de mettre des tirs à 3 points aussi, ce qui est un peu embêtant. Adrian Griffin avait montré des choses. Je pense dans sa volonté de mettre en avant les jeunes joueurs, Marjon Beauchamp, Andre Jackson et Jay Green, mais ce n'était pas suffisant. Là, on en arrive au point Doc Rivers. Oui, est-ce que embaucher Doc Rivers était une idée inspirée? Je ne sais pas. Je dirais juste deux choses pour amender. Tu ne peux pas repartir sur un assistant à ce moment-là parce que tu es en mission, tu es en win now et il te reste 40 matchs, t'as pas le temps. Et qui sont les alternatives? Alors, je dis pas que Doc Rivers, c'est bien. Je dis que moi, je me suis refait les listes de l'époque avant de préparer le podcast. Si l'alternative, c'est Mark Jackson, le gospel, et je sais pas quoi, pour moi, c'est pas des alternatives, ça. Je suis désolé. Alors, on peut me citer peut-être James Borrego. Sur les côtés tactiques, oui. Rappelons que Borrego, il perd son vestiaire aux Hornets. Hein. Donc, bon, je suis pas... Donc, là, je sais qu'Amine va me dire non, mais est-ce qu'on peut justifier la venue de Doc Rivers, Amine?
Je vais pas totalement te dire non. Je vais te dire, comme on l'avait dit à l'époque, parce qu'on avait fait un live ensemble pour réagir à l'arrivée de Doc Rivers aux Bucks, qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix qu'à faire, puisque tu voulais un coach. De toute façon, tu avais viré Griffin pour prendre un coach vétéran pour terminer la saison. Mmh. Comme tu l'as dit, à part aller chercher un Borrego, aller chercher un, justement, aller retourner chercher un Terry Stotts, par exemple, ou essayer de convaincre. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être le choix le plus ronflant, c'est Atkinson, mais Atkinson a aussi eu des problèmes à Brooklyn avec des stars. Donc, c'est toujours la même chose. On a toujours ce genre de question qui va revenir. Donc, finalement, il n'y avait pas de choix unanime, quoi qu'il arrive, qui aurait été bien meilleur que celui de Doc Rivers. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'au moment où tu choisis... Donc, je suis d'accord avec toi, mais au moment où tu choisis Doc Rivers, est-ce que tu ne mets pas tout de suite dans une situation où tu vas mieux finir la saison normalement en régulière et tu seras forcément très limité en play-off?
Oui, c'est ce que... Effectivement, c'est... cette séquence, c'est un peu une redite pour moi de ce que j'avais pu dire, on avait pu dire pendant le live, mais... Je pense que leur pari, c'est de se dire que, et j'expliquerai ça un peu plus tard, les faiblesses de Doc Rivers pourront pas être mises en avant avec ce roster-là parce que, par exemple, au niveau des rotations, il n'a pas trop le choix. En fait. Il n'y a pas tant de joueurs que ça à mettre en avant et tu peux pas trop te tromper sur les rotations. Au niveau de la philosophie offensive, justement, moi, j'avais expliqué à l'époque que le gros point faible de Doc, c'est-à-dire de se reposer sur ses acquis, limite, c'était un point fort avec cette équipe-là parce qu'Adrien Griffin, il refusait de jouer le pick and roll d'Emile Lillard, Giannis Antetokounmpo, qui était le truc que tout le monde attendait. Il ne voulait pas le jouer. Donc, je suis d'accord que Doc, il y a des points négatifs. Hein. Les rookies qui avaient été un peu mis en avant, les jeunes joueurs mis en avant par Adrien Griffin, au revoir. Il n'y a plus de Marjon Beauchamp, il n'y a plus d'André Jackson. Il n'y a que AJ Green qui résiste un peu. À la place, on nous a ramené le cadavre de Danilo Gallinari, etc. Enfin, bref, catastrophique. Cependant, moi, ce que je voulais faire avec cette intro, qui n'est pas si longue que ça, en fait, c'était montrer, quand même, bon, 10 minutes, mais c'était montrer que, oui, à l'instant T, ils auraient dû avoir Budenholzer. C'est-à-dire que si moi, si tu expliques au front office des Bucks qu'ils auront Damien Lillard en octobre, je ne suis pas sûr que Budenholzer saute. Et encore. Je pense, par contre, que leur choix d'Adrien Griffin, ils ne choisissent pas Adrien Griffin s'ils savent que ils ont des milliards quelques mois après. Donc, tout ce contexte-là fait qu'actuellement, les Bucks, c'est une équipe sur laquelle il est difficile d'avoir beaucoup de certitudes parce que parmi tous les scénarios possibles, à chaque fois, à chaque moment clé de la saison, chaque décision a amené à des conséquences négatives. Donc, elle est difficile à cerner, cette équipe. On a fait trop long pour l'intro, Amine. Je peux aller vers la suite dès que tu me dis.
Non, moi j'aimerais juste rebondir sur un truc. Méfie-toi quand même sur il a pas le matériel pour faire des rotations hasardeuses de Doc Rivers parce que moi j'ai le souvenir assez fréquent de DeAndre Jordan avec beaucoup de c'est minutes vrai. En play-off, DeAndre Jordan terminé, Paul Millsap en poste 5 à la toute fin de sa carrière qui n'existe plus titulaire, Furkan Korkmaz qui joue des 25 minutes en play-off. Donc méfie-toi, il a pas besoin du matériel pour faire des rotations hasardeuses. Il a beaucoup de ressources. Bon, du coup, comme tu l'as dit, on a fait très long quand même sur cette intro. On va passer aux faiblesses parce que c'est évidemment le cœur de notre podcast. Et je sais que pour ta première faiblesse, tu as choisi la défense à l'extérieur. Et tu as même précisé la navigation, le point of attack, trois petits points, tout. Donc, tout. Je te laisse parler de la défense, toute la défense extérieure.
Tout est catastrophique. Il n'y a rien à récupérer. Vraiment, c'est absolument catastrophique. Que ça soit sous Doc, sous Adrien Griffin, il n'y a rien à récupérer. Alors, plusieurs choses. D'abord, ça m'embête parce que j'avais préparé toute une séquence sur Malik Beasley. Et qu'est-ce que fait Doc Rivers? Genre, trois jours avant ce podcast, il décide de titulariser Patrick Beverley qui est blessé. Bon, passons. Revenons là-dessus. Le calcul d'Adrien Griffin, je l'ai dit, était le bon pour moi. La ligne arrière des Bucks, actuellement, n'est pas capable de stopper une ligne arrière NBA, quelle qu'elle soit. Damien Lillard immense mea culpa sur le DH20 2023. J'étais parti du principe que, bon, Lillard, il était dans un environnement assez négatif du point de vue de la défense à Portland et que j'estimais que, bon, c'était assez difficile de le juger. Il se fait vraiment battre sur les premiers pas. Au niveau de la communication, il a beaucoup de mal aussi, même s'il est un peu, ça va un peu mieux avec le temps. Et physiquement, il est juste pas assez bon pour défendre sur un arrière NBA et encore moins quand c'est un très bon arrière NBA. Et à côté de lui, la bonne idée d'Adrian Griffin, d'un côté, il a pas trop le choix, c'est Malik Beasley. Alors, je tiens à souligner la performance absolument gigantesque du pôle communication des Bucks qui ont essayé de nous vendre Malik Beasley comme un défenseur. Ça n'a jamais été le cas, hein, en l'occurrence. C'est-à-dire que quand on regarde Malik Beasley, moi, il y a une action qui me marque beaucoup. Je vous ai mis dans la conversation Dunk Hebdo des images des Knicks contre les Bucks. J'ai regardé toutes les possessions des Knicks contre les Bucks cette année, et celle de Jalen Brunson, en fait, en particulier. Parce qu'en fait, Jalen Brunson, c'est le prototype du joueur qui pose problème aux Bucks. Il y a tout. Et c'est fascinant, la navigation d'écran de Malik Beasley. Une des premières actions du premier Bucks-Knicks cette année, c'est Juice Randle qui a la balle et ils font un espèce de système où Brunson pose un écran pour Hart et ensuite c'est Mitchell Robinson qui pose un écran pour Brunson. Alors franchement, Malik Beasley, je pense qu'il était perdu, le pauvre. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il y a réception du ballon de Brunson à 45 degrés à peu près, Brunson a une ligne de drive grande ouverte. Malik Beasley est encore dans l'écran avec Mitchell Robinson. Tout au long de la saison, ça a été le problème de Malik Beasley au niveau des communications. Il est à la rue, il y a plus d'une fois où tu vois qu'il ne sait pas quel joueur il doit défendre. Et puis, ce n'est pas un défenseur sur le point d'attaque. C'est-à-dire que le nombre de joueurs qui, sur la prise d'écran, l'éliminent, enfin, Jalen Brunson, s'il tourne à 37 points de moyenne contre les Bucks cette année, c'est parce qu'il s'amuse sur le pick and roll. Le nombre de fois où le défenseur se retrouve dans son dos, c'est risible. Donc, ils n'ont pas de solution sur la ligne arrière. Damien Lillard n'est pas au niveau. Malik Beasley n'est pas un défenseur. Pat Connaughton a perdu en termes de vitesse et n'a jamais été un joueur pour défendre sur les porteurs de balles prioritaires. Patrick Beverley est peut-être le meilleur et il est blessé. Je sais qu'il y a une théorie, la communauté analytique qui a l'idée selon laquelle, en fait, la défense extérieure est un peu surcotée, dans le sens où tu peux survivre si ta base arrière, ton front de court fait le taf.
Intérieur.
Là, c'est peut-être un peu beaucoup, clairement.
Oui, il y a des limites à ça. Et puis, bon, tu l'as dit, hein, Malik Beasley, Damien Lillard, le backcourt qui a joué le plus cette saison du côté des Bucks, on est quand même sur deux. Parce que tu as dit, Damien Lillard n'est pas au niveau, mais Damien Lillard est un très mauvais défenseur également, qui fait assez peu d'efforts en plus. Mm-hmm. Donc, on est sur une ligne arrière qui est en difficulté. Et moi, je trouve ça assez inquiétant aussi, comme tu l'as dit, c'est ce que j'ai remarqué récemment, le passage dans le starter de Patrick Beverley, c'est quand même assez inquiétant. On parle d'un joueur, je vais encore parler de Philly, je suis désolé, mais on parle d'un joueur qu'on a transféré assez facilement, qui était à peu près quatrième de la rotation au moment où il était là, sachant qu'on n'avait pas encore des joueurs comme Kyle Lowry ou Buddy Hield, donc qui ne serait plus dans la rotation aujourd'hui, et qui va peut-être être starter blessé en plus, comme tu l'as dit, je crois que c'est à la main, il me semble.
Au poignet,
ouais. Au poignet, oui, voilà. Et du coup, ce qui peut quand même l'handicaper, mais effectivement, c'est logique, finalement, que Pat Beverley soit titulaire, parce que c'est le meilleur défenseur du point of attack que tu as dans ce roster. Mais pourtant, c'est pas non plus un défenseur implacable, Patrick Beverley. Disons que c'est un joueur agressif qui fait le job, mais c'est pas un défenseur implacable non plus.
Ah, mais très, très clairement. Et pourtant, c'est leur meilleure solution de loin. Malik Beasley a fait, après, je veux pas trop taper sur Malik Beasley, mais, en fait, on l'a mis dans un costume. On parle de la théorie du costume. Là, c'est du XXL qu'on a mis à Malik Beasley. Il n'est pas... tu vois, on parlait de Grayson Allen, tous les deux, dans le podcast sur les Suns. Je pense que Grayson Allen est un meilleur défenseur sur le point of attack que Malik Beasley.
Et bien pourtant, qu'il ne le soit pas non plus.
Pourtant, c'était un de tes points négatifs. pourtant, là, c'est encore pire. D'accord. Et le joueur qui complète le backcourt, enfin, il n'y a pas de comparaison. Alors, Booker, il fait le minimum syndical cette année, mais il n'y a pas de comparaison possible défensivement avec Damien Lillard. Donc, moi, je me faisais la réflexion en fignolant mes notes. Je pense que c'est le pire backcourt défensif des 20 des previews. Je pense. Le seul qui peut se battre, c'est le Cleveland, le Garland Mitchell. Mais je pense que de tous, je prends quand même celui de Cleveland.
Je, Je prends clairement Donovan Mitchell, en tout cas devant tous ceux des Bucks défensivement, bien que ce soit un problème en défense.
Donc tu arrives avec le pire backcourt défensif des 20 previews.
Ouais, c'est compliqué. Comme tu l'as dit, c'est quand même rattrapé par une défense intérieure qui est censée être très forte, mais qui l'est un peu moins cette saison. Je pense que Brook Lopez n'est pas le Brook Lopez de l'année dernière. Bon, on peut penser quand même que ça a été dû au début de saison avec Adrian Griffin où il a remis en question justement les préceptes défensifs habituels des Bucks. Mais on n'a pas le Brook Lopez rayonnant de la saison dernière. Je pense que c'est aussi une affaire de système, c'est-à-dire que Brook Lopez fonctionnait comme un défenseur extraordinaire dans un système parfait, en fait, finalement, du côté des Bucks.
Puis,
je sais pas ce que t'en penses.
Bah, je suis complètement d'accord. Alors, c'est là où la perte de Jrue Holiday, elle est sévère, mais pour moi, je veux vraiment mettre en avant le fait que tu peux pas... Jrue Holiday est un extraordinaire défenseur, mais t'expliques pas qu'une défense élite devienne médiocre avec la simple présence de Jrue Holiday. C'est Jrue Holiday, oui. C'est Brook Lopez un peu moins fort. Brook Lopez qui doit beaucoup plus compenser. Giannis qui est... Et ça, les Knicks l'ont très bien fait. Franchement, les matchs Knicks-Bucks, pour moi, c'est limite les trucs les plus intéressants à l'Est cette année, en dehors de Boston. Pardon. C'est que de plus en plus d'équipes ont compris la solution. Sachant que le pick and roll, quel que ce soit Malik Beasley ou Damien Lillard, Brook Lopez doit quasiment défendre sur deux. Ce que font les équipes, c'est qu'elles trouvent un moyen de mettre Giannis loin de l'action, ce qui fait qu'il peut plus aider. Donc, très souvent, Brook Lopez se trouve en deux contre un et bah, il peut pas, en fait. Brook Lopez, en plus, un Brook Lopez qui devient quand même très, très vieillissant. Donc, je suis d'accord avec toi. Le front court subit les conséquences du back court, mais c'est, j'ai l'impression que c'est une défense qui est moins forte globalement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me mettez Jrue Holiday dans la défense 2023-2024 des Bucks, ils auraient été moins forts aussi.
Après, il y a aussi le côté nombre de joueurs positifs en défense. C'est-à-dire que la saison dernière, encore, le moins bon défenseur, on en a déjà parlé, le moins bon défenseur finalement du starting five des Bucks, c'était Grayson Allen, qui n'est pas un mauvais défenseur. Cette saison, on a deux mauvais défenseurs dans le starting five. Donc, c'est ce qui fait toute la différence finalement.
Et là, je propose, on peut du coup enchaîner, Amine, sur le deuxième point.
C'est ce que j'allais dire, puisqu'on a parlé du starting five et on va parler de ta deuxième faiblesse, la théorie du cinquième starter, justement, et dont on a déjà un petit peu parlé, et aussi les role players, les joueurs qui vont aider l'équipe.
Alors là, je vais exclure de cette discussion donc le top 4, le Giannis, Dame, Middleton, Lopez. J'en parlerai un peu plus tard. Mon immense inquiétude vis-à-vis des Bucks, c'est dans une série à haut niveau, avec des rotations resserrées, si tout le monde est en bonne santé, ce qui est déjà un immense si, ils peuvent compter sur qui exactement? J'exclus les 4. Alors, faisons la liste. Ce sera très rapide, ça sera sommaire et ils vont tous plus ou moins être rhabillés pour l'hiver. Malik Beasley. Donc déjà, Malik Beasley, on en a beaucoup parlé en défense. Autant vous dire qu'entre les problèmes de navigation, le fait que la communication est vraiment à revoir et le fait qu'il est assez petit en fait. Malik Beasley, parfois, il doit défendre des joueurs qui sont plus grands que lui, ce qui est un peu un problème. C'est compliqué. Il y a aussi un truc avec Malik Beasley, c'est que, et ça explique en partie pourquoi les Bucks avaient très bien démarré en début de saison, Malik Beasley sous Doc Rivers, c'est 36,7% de réussite en catch and shoot. Sous Adrian Griffin, c'est 49,5%. Il y a 12 points de différence. Et sur les tirs ouverts ou grand ouvert de NBA.com, sous Griffin et sous Doc, c'est pratiquement le même volume, 212-208. Sous Griffin, il était à 50% en catch and shoot. Il est à 38 avec Doc, 12 points. Alors, je veux bien que le système offensif n'est pas pareil, mais vraiment, Malik Beasley, il a une chute en termes de réussite à 3 points sous Doc. Ce qui fait que tu regardes 42% sur la saison pour Malik Beasley, tu te dis « Ah, pas mal ». Non, sauf qu'en fait, il y a une période, alors ça correspond plus ou moins à l'arrivée d'un coach et au départ de l'autre, il y a une période de vide intersidéral qui fait que bah, les équipes se sont adaptées et maintenant les défenses peuvent proposer un mur à Giannis sans avoir l'inquiétude d'être sanctionné par Malik Beasley. Donc bon, Malik Beasley, merci. Ensuite, on a qui ? Bobby Portis. Alors Bobby Portis, très bon sixième homme, mais roi de l'inconstance. Il y a quand même une série de 6 matchs cette saison de Bobby Portis qui tourne à 12 points de moyenne entre la fin décembre et le début janvier où il n'atteint même pas les 10 points. Il vient d'en mettre 30 là, au moment où on enregistre contre Orlando, mais c'est Bobby Portis. En termes de, d'apport offensif, il y a trop de variance. C'est difficile de compter sur lui. Il sera dans la rotation, mais ça reste compliqué. Il y a qui d'autre ? On en a parlé. Pat Bev, il est blessé. Défensivement, bon, c'est peut-être ta meilleure assurance. Et offensivement, il y a des gros problèmes. Pat Connaughton, ça fait deux saisons qu'il est moins adroit au shoot. Défensivement, il a perdu de la vitesse. Jalen Brunson, il l'avait dans son dos. Tout, il faisait la queue leu-leu tout le les cinq matchs, tout simplement. Jay Crowder, défenseur de réputation. Il peut défendre que sur les ailiers maintenant et il est plus très bon. Et les défenses ne le prennent pas en compte quand ça attaque. Et Jay Green, c'est un rookie, bon shooter, mais défensivement un peu juste. Andre Jackson, Marjon Beauchamp, le reste, Cameron Payne, bref, enfin, Danilo Gallinari, pardon. Bon, j'en parle plus. Il y a qui ? Il y a 6 joueurs, 7 joueurs de playoff dans cet effectif ?
Ouais, et moi d'expérience, je pense que tu verras que Danilo Gallinari aura ses minutes en playoff de par l'expérience, par exemple. C'est malheureusement, je suis prêt à le parier. Peut-être que je me trompe, mais je suis prêt à le parier qu'il aura ses minutes en playoff malgré l'âge avancé, gros problème défensif que tu as lorsque tu mets Danilo Gallinari sur le parquet. Je suis d'accord. Je pense que c'est peut-être la principale limite, c'est que le roster a vraiment 6-7 joueurs max pour faire un run de playoff, sachant que t'en as vraiment 4. Que s'ils sont en bonne santé, et on en reviendra plus tard, tu es content de les avoir, mais les 2-3 autres qui complètent ta rotation, déjà, t'es déjà pas très content que ce soit eux. Donc, je demande si c'est pas la plus grosse faiblesse, bien que j'en aurais d'autres à citer, hein, mais je me demande si le groupe est pas très, très limité, justement.
Je serais assez d'accord. Pour un peu étayer sur la théorie du cinquième starter, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, dans un match de très haut niveau, sur les 6 ou 7 dernières minutes d'un match clé d'une série de playoffs, ma question, c'est qui joue en termes de cinquième starter ? Tu peux pas, à l'heure actuelle, demander faire un 5 avec Bobby Portis, un 5 très très big, parce que ça marchait quand tu avais Jrue Holiday sur le point of attack, ça marche plus. C'est pas viable. Ouais. Pat Bev, on l'a dit, il est blessé. Pour moi, la meilleure alternative reste...
Il est blessé, mais il joue. Hein.
Il joue. Mais pour moi, la meilleure alternative...
Moi, de toute manière, ça se joue entre Beverley et Beasley. C'est une évidence que c'est l'un ou l'autre. Je sais pas si c'est pas Beverley, malheureusement. Ce qui est pas une bonne nouvelle, mais de toute façon c'est pas une bonne nouvelle que ce soit Beasley aussi, hein, mais je me demande si c'est pas Beverley. Comme tu dis, le fait qu'il soit blessé, ça remet un petit peu en cause, mais je pense que s'il joue actuellement avec River, c'est parce que c'est comme ça qu'il l'imagine, justement.
Mon seul espoir, c'est que...
Parce qu'au moins tu défends ton point of attack, quoi. C'est le seul avantage, quoi. T'as un gars qui sait le faire.
C'est ça. J'expliquerai dans le plancher plafond, je préfère peut-être Beasley. Dans la théorie spacing et aussi dans la théorie, il y a un monde où ça reste un mec qui est capable de artiller sur catch and shoot et qui débloque l'attaque des Bucks, tout simplement. Mais avant,
je suis d'accord. Et puis je termine là-dessus. Il y a juste un truc que tu as dit sur Beasley. Effectivement, les pourcentages, sachant que en dessous de 40% sur du catch and shoot et sur du grand ouvert, c'est vraiment pas bien en ce moment. Mm-hmm. Ça, parce que les chiffres paraissent pas si déconnants, mais sur du catch and shoot, sur du grand ouvert pour un vrai shooter, c'est pas terrible. Mais par contre, ces pourcentages d'avance sont assez exceptionnels. Et quand ça rentre, Malik Beasley, c'est un shooter de très bon niveau quand même. Donc, ça permet d'avoir un spacing très optimisé si tu l'utilises bien. Mais effectivement, on va passer à la suite des faiblesses et on va parler de quelque chose dont on vient de parler encore une fois, parce que on a 4 joueurs dont on est plutôt content d'avoir dans le starting five, enfin, très content. Mais il va falloir se poser cette question, et c'est une question qui est à propos par rapport à l'actualité récente, la capacité à rester en bonne santé. C'est ta troisième faiblesse, Ben.
Je vais faire court. Pour moi, j'étais obligé de citer ça parce que les Bucks, mine de rien, depuis 2019, ils n'ont pas vraiment été en bonne santé sur un run de playoff. Enfin, même l'année de leur titre, Giannis, il n'est pas là pendant 2 matchs de la finale de conf, faut se rappeler. Et alors, petit état des lieux, donc on l'a dit déjà 10 fois, mais Pat Bev est blessé. Damien Lillard est gêné par sa cheville depuis pas mal de temps. Chris Middleton n'est pas vraiment en bonne santé depuis 2 ans. Même si Chris Middleton, il y a un truc qui est fascinant. Je me suis dit, oh là là, il a dû rater un camion de match de playoff. À part la campagne 2022, il trouve toujours un moyen d'être là en playoff. Donc c'est bravo. très, très professionnel. Giannis s'est blessé et on ne sait pas pour combien de temps et on ne sait pas dans quel détail il va revenir. Premier petit taquet pour toute la, pour tous ceux qui, en ce moment, il y a des takes sur Giannis qui sont folles. Il suffit de regarder les Bucks avec Giannis et sans Giannis. Je pense qu'il passe pas un tour à l'Est, sauf si Damien Lillard redevient Prime Lillard sans Giannis. Je pense même qu'ils se font exterminer sans Giannis sur une série de playoffs à l'Est. Et c'est pour dire à quel point c'est vraiment catastrophique vu le niveau de certaines équipes à l'Est. Donc, Giannis, si tu l'as pas à 80%, je pense que tes chances d'aller juste, ne serait-ce qu'en finale de conf, s'amenuisent grandement. Voilà. C'est en gros ton top 3 que je vais mettre en avant dans 3 minutes a des grosses interrogations au niveau blessure. C'est terrifiant.
Le quatrième, j'ai envie de te dire aussi, avec l'âge, ton quatrième joueur qui est Brook Lopez, qui a eu parfois quelques bonnes blessures, on n'est pas certain non plus de le garder en santé, sachant que on va parler d'âge aussi dans cette capacité à rester en bonne santé. Et à part Giannis qui est dans la force de l'âge, on est sur d'autres joueurs qui sont un petit peu plus fatigués. Mais justement, on va passer tout de suite à la suite, comme tu l'as dit, puisqu'on a déjà fait très long. Le motif d'espoir, on en revient à la même chose, c'est-à-dire au même joueur, puisque ce que tu as choisi, c'est le niveau du trio. Damien Lillard, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, quand ils sont en bonne santé.
Exactement. Je l'ai dit, ils ont vraiment très très peu joué sous Doc. C'est pour moi là, une des plus grandes explications du bilan actuel et du net rating sous Doc qui est vraiment pas bon. C'est parce qu'en fait, il n'a pas Middleton, il n'a pas Giannis et il n'a pas Lillard ensemble. Sur cette saison, quand on regarde les trios, c'est le troisième trio en termes de net rating. Ils ont été pendant très longtemps numéro 1. Les seuls trios qui ont un meilleur net rating que le leur, c'est le trio James Harden, Paul George, Norman Powell et le Isaiah Hartenstein, Jalen Brunson et Josh Hart. Les fans des Knicks seront contents. C'est une équipe qui est élite quand elle a ces trois joueurs. Il y a, pour moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à pas me dire qu'il y a un monde, certes totalement fantasmé, où cette équipe peut gagner un titre, c'est que quand elle a ces trois joueurs-là, elle est capable de battre tout le monde. J'en ai pour preuve aussi que quand on regarde le net rating contre les 10 meilleures équipes de la NBA au net rating, ils sont numéro 1, les Bucks. Et pas d'un peu, ils sont à plus 7, deuxième Boston, plus 4,5. C'est la meilleure attaque et la cinquième défense. Et ça s'explique par des victoires de prestige. Ils ont broyé Boston à Milwaukee, ils ont battu les Clippers à LA et aussi à Milwaukee, ils ont battu Denver. Certes, Denver n'avait pas Michael Porter, mais ils n'avaient pas Chris Middleton à domicile. Ils ont passé plus 25 à OKC. Ils ont battu tous les cadors de la NBA à domicile. On en reviendra un peu plus tard. Le problème, c'est peut-être qu'ils n'arrivent pas à le faire à l'extérieur. Cette équipe, quand tout va bien, je suis désolé, c'est un des plus hauts plafonds de la NBA. Je dirais même jusqu'à dire que pour moi, en termes de plafond, il y a vraiment débat avec Denver et Boston. C'est les deux seuls débats qui existent, selon moi, à pleine puissance. La question étant, est-ce qu'on les verra à pleine puissance ? Je suis complètement d'accord, mais j'ai beaucoup de mal à écarter de cette voie-là, du chemin du titre, une équipe qui m'a montré qu'elle pouvait, sur séquence, être la meilleure équipe de la NBA.
Ouais, je suis assez d'accord, même si j'ai quelques réserves sur le niveau actuel de Chris Middleton, qu'on est quand même un peu loin du Middleton de 2021, qui était un joueur fantastique finalement, qui pouvait énerver, hein, on le disait déjà à l'époque, mais qui avant la blessure avait atteint un niveau de All-Star confirmé en NBA. On est aujourd'hui sur un joueur, même si le fait qu'il soit passé un peu plus en troisième option offensive l'aide un petit peu plus justement dans sa reconversion, mais effectivement, je peux pas aller contre l'idée que ce qu'on a dit tout simplement au tout début de saison quand il y a eu le trade de Damien Lillard, c'est que déjà, de toute manière, Damien Lillard et Giannis Antetokounmpo, sur le papier et sur ce qu'on a vu lorsque ça a fonctionné, offensivement, c'est juste monstrueux, et pourtant, ça n'a pas été toute la saison optimisée, justement, donc on pouvait espérer mieux, mais... Sur le star power, je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui en NBA en termes de star power que les Bucks aussi. C'est quelque chose que peut-être dont on se rend pas assez compte.
Le truc, c'est on parle de quel Damien Lillard. Si on parle du, oui. Si on parce que c'est Damien Lillard cette année, c'est toutes ses statistiques en termes d'efficacité sont en berne.
C'est une mauvaise saison de Damien Lillard.
C'est un joueur qui paye beaucoup le changement d'arbitrage dont on avait parlé dans un épisode, qui du coup a beaucoup moins de lancers francs. Et cette année, Damien Lillard, constamment dans les matchs des Bucks, quand il est en difficulté, en délicatesse avec son tir extérieur, va dans la raquette à chercher des lancers francs pour se mettre en confiance. Ça fait quelques semaines que cette formule-là ne marche plus. Après, oui, sur le principe, moi, plutôt que dire le meilleur duo, pour moi, c'est théoriquement le meilleur trio de la NBA. Oui, je dis que proportionnellement au niveau, je le mettrais même devant le PG, Harden et Kawhi sur l'idée qu'en gros, le duo, la différence entre les deux duos est un peu plus... En gros, si on fait un power ranking, ça nous donne Giannis, Kawhi, Lillard. Et sur séquence, en fait, je suis un peu inquiété par PG et Harden, donc je les mettrais un peu plus en dessous. Voilà, si on devait faire une note moyenne, je ne sais pas si la question est très, très claire.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
C'est vrai que j'exagère un peu. J'ai vraiment une haute opinion de ces deux joueurs que sont Damien Lillard.
Je pense que ça se joue plus sur Lillard et sur ce qu'il apporte aujourd'hui en plus, ce qui fait que c'est compliqué. Je pense que James Harden n'est pas un bon défenseur, mais je pense qu'il te met moins en difficulté en défense quand même que Damien Lillard. Donc, il y a quand même une sorte de... Sachant que PG et Kawhi sont à un certain niveau également. Non, c'est-à-dire que Kawhi n'est peut-être pas très loin de Giannis en termes de meilleur joueur entre les deux, et que derrière, ça se joue beaucoup plus facilement parce que Middleton est quand même très loin.
Non, t'as raison.
Soit de PG ou de Harden.
Non, j'ai dit n'importe quoi, t'as raison. C'est le meilleur duo à l'Est, du coup, correction. non, t'as raison. C'est le meilleur duo à l'Est, et il y a une terme de synergie, peut-être, dans ce duo, qui est aussi vraiment très intéressant. Donc, voilà, pour moi, c'est le motif d'espoir parce que j'ai vu des matchs où cette équipe ressemblait à un champion NBA. Et je vais être honnête, il n'y a que trois autres équipes qui m'ont donné ce sentiment-là cette saison. Si je suis parfaitement transparent, c'est les Clippers quand ils sont sur leur run de fou, c'est les Nuggets, c'est les Celtics. Voilà, c'est les quatre équipes qui, à un moment dans la saison, je les ai vues jouer, je me suis dit, OK, cette équipe-là peut être titrable. Donc, ça m'amène quand même à garder espoir, je dois dire.
Et l'espoir, tu le gardes peut-être grâce aussi aux joueurs clés que tu as choisis. Je le rappelle, on n'a pas le droit de choisir les superstars, donc évidemment ce n'est pas Damien Lillard, ce n'est pas Giannis Antetokounmpo. Et bien c'est le troisième, que tu as choisi le troisième dans ce trio justement, c'est Chris Middleton. Alors dis-nous pourquoi, je te cite, c'est le joueur le plus important des playoffs.
Ouais, je suis trop dans la take parce qu'en fait, je suis en train de me dire que non, c'est vraiment pas le meilleur trio de la NBA. Je reviens vraiment sur ce que j'ai dit là, j'y repense. La fatigue, sûrement, qui me fait dire des dingueries. Non, Chris Middleton, par contre, je pense que c'est vraiment un des joueurs les plus importants de ces playoffs. Alors, précisons que c'est un truc que j'ai écrit avant que Giannis se pète. Parce que je partais du principe que Giannis, même si Giannis, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il n'était pas vraiment en forme. Que Lillard aussi, je l'ai rappelé, hein, il a vraiment ce problème de blessure à la cheville. Chris Middleton, c'est la bascule. Chris Middleton, tu l'as dit, il est un peu moins bon depuis sa grosse blessure. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à rester en bonne santé. En gros, il reste jamais en bonne santé plus de 6 semaines. C'est ce qui me terrifie sur un run de playoff. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer être en bonne santé pendant 2 mois. Je vais être honnête. Mais en fait, là, c'est plutôt la théorie des costumes, mais inversée. C'est-à-dire que maintenant, les équipes qui défendent contre les Bucks mettre leur troisième meilleur défenseur sur Chris Middleton. Et ça change quand même complètement la vie de Chris Middleton, qui fait qu'il, sauf contre Boston, qui a trop de bons défenseurs, mais contre beaucoup d'équipes NBA, se retrouve avec des défenseurs qui sont parfois sous-dimensionnés, qui n'ont pas en fait leur capacité à l'arrêter sur sa recharge de mi-distance. Et ce qui fait que Chris Middleton a cette capacité à marquer beaucoup, beaucoup de points et à servir de soupape de sécurité pour Giannis et pour Lillard. Ça permet aussi, au niveau offensif, de ne pas tomber, ce qui peut être parfois le cas, hein, sous Doc, c'est vrai, dans un espèce de pick and roll systématique. Là, ça t'offre une autre possibilité à jouer des pick and roll Middleton, Giannis, qui eux sont une espèce d'assurance-vie, ça marche depuis très longtemps, ou même tenter des trucs, genre des pick and roll Lillard, Middleton, qu'on voit très très peu parce que Middleton est souvent blessé. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur clé des playoffs, aussi bien de ce côté-là que du côté défensif. Parce que on l'a déjà dit, la ligne arrière est défaillante. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un Chris Middleton lui aussi défaillant. Parce qu'il y a un moment, tu dois défendre un minimum et le front de court aura beaucoup de pression, donc ils auront besoin de lui défensivement. Est-ce que c'est encore ce joueur-là? Je ne suis pas sûr. Cependant, le niveau de Chris Middleton sera très important. Dernière chose, on en avait parlé pendant le run de playoff, c'est vraiment un joueur qui a une capacité à avoir de la variance de fou sur ses performances. Et ce qui me rassure un peu, c'est qu'il aura moins... En gros, les variances de Chris Middleton seront moins préjudiciables. C'est-à-dire que vu que le volume de tir et l'importance offensive sera moins importante, ils ne sont pas condamnés le jour où ils ont Dr. Middleton et pas Mr. Chris, Mr. Chris, on va l'appeler comme ça. Ils n'ont pas Mr. Chris, tu vois. Donc, c'est ça qui me rassure un peu pour eux, mais c'est un joueur clé pour eux parce que si leur top 3 fonctionne, même si leur défense est défaillante, même s'ils n'ont que 6 joueurs ennemis, ils seront très durs à sortir.
Ouais, je dirais même, pour en revenir à ton Dr. Middleton et Mr. Chris, je dirais même que le fait qu'il ait un volume moins important maintenant, qu'il soit clairement passé troisième option, devrait lui permettre justement de garder ses bons jours et peut-être de prendre plus de volume dans ses bons jours et de pouvoir se reposer un peu plus tranquillement dans ses mauvais, puisqu'il a deux personnes qui pourront prendre les tirs à sa place dans ces moments-là. Et puis aussi, il y a le côté dans le clutch où Chris Middleton avait une importance capitale dans ces Bucks, puisque c'était dur de compter sur Giannis dans le clutch de par sa capacité à ses difficultés à prendre des shoots en pull-up. Et aujourd'hui, il peut être soulagé par un joueur qui a fait ses preuves dans le clutch, hein, même dans une mauvaise saison. On est toujours content d'avoir Damien Lillard aussi pour pouvoir jouer là-dessus. Donc, je pense que Middleton va être un joueur très important pour le run des Bucks, effectivement. Et finalement, son niveau pourra déterminer jusqu'où iront les Bucks, même si là aujourd'hui tout de suite, même si on pouvait pas le choisir, l'état de forme de Giannis, ça me paraît être le truc le plus clé des Bucks quoi qu'il arrive. Hein.
Bah,
c'est difficile de.
J'avoue que j'avais aussi envie de mettre le joueur clé, le cinquième titulaire, mais du coup j'en parlais déjà durant mes points faibles. Mais oui, l'état de forme de Giannis, ils ont besoin de Giannis à 100%. Giannis qui est un extraordinaire joueur de playoff. Je trouve ça fou qu'on doive le rappeler en 2023. Je me remets pas de certaines dingueries que j'ai vues récemment, mais qui avait besoin, tu l'as dit, hein, dans ce qui est un peu le cas de tous les joueurs portés intérieurs. Ils ont besoin d'une soupape de sécurité capable de pull-up sur de l'extérieur. Et ben, non, la théorie, c'était que Damien Lillard t'apportait cette garantie-là. Cette saison, on l'a pas trop vu.
C'est ça. Du coup, on va passer à notre dernière partie, Ben, et là, ça va être intéressant. Je pense que c'est un moment très intéressant puisqu'on va parler du plancher de ces Bucks et du plafond de ces Bucks. Vas-y, Ben, est-ce que tu vas nous faire le fameux élimination au premier tour, titre NBA? J'attends tout de suite.
Oh là là, oh, j'avais dit que ça n'existait pas. alors, commençons par le plancher. Vu les défaites récentes, vu les états de forme qui sont plutôt inquiétants, il y a un scénario où ils prennent Philly, premier tour. Il y a un scénario où ils prennent Miami, premier tour. Il y a un scénario où ils prennent... Je serais quand même sceptique sur Orlando, mais passons. Il y a un scénario où ils prennent une équipe au premier tour et ils sautent et c'est une catastrophe à Milwaukee. Ce scénario existe. Il est même de plus en plus vraisemblable. C'est vraiment... Moi, je serais extrêmement inquiet si j'étais fan des Bucks parce que il y a un truc de vibes qui va pas du tout. C'est-à-dire que tu étais en train de te dire que bon, on est actuellement dans une conférence Est où sur un malentendu, tu es en finale de conf parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Giannis se pète, tu perds des matchs que tu n'es jamais censé perdre. Ça fait 15 jours que tu devrais mettre tout le monde au repos parce que tu devrais avoir assuré cette deuxième place. C'est pas le cas. Donc, il y a un truc qui fait... On est quand même, tu vois... C'est pour ça que je voulais faire ce grand rappel de la saison des Bucks. C'est que quand tu finis ce rappel, tu te dis, il n'y a aucun monde où ça se finit bien, cette histoire. Ça n'existe pas de bonne fin pour cette histoire. Donc, pour moi, le scénario, le plancher, c'est élimination au premier tour catastrophique. Je pense que sur ça, on est d'accord.
Oui, clairement. Clairement, j'ai envie de te dire que même en tant que supporter de Philadelphie, aujourd'hui... contrairement à il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait la preview de Philadelphie, on est encore sur d'autres considérations, mais entre temps Philadelphie est revenu à un bon niveau avec un Joel Embiid qui revient bien, avec Anthony Milton qui revient, donc la perspective de terminer 7e aujourd'hui, je pense que ce soit du côté de Philadelphie ou que ce soit du côté de Miami, de terminer 7e plutôt qu'8e notamment est une très bonne perspective aujourd'hui et laisse beaucoup d'espoir, j'ai l'impression. parce que ces Bucks font peur, finalement. Se font peur à eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et reste une très bonne possibilité d'affronter, surtout au premier tour, surtout depuis qu'on sait que Yanis s'est blessé récemment et qu'il sera peut-être pas à 100% au premier tour. Il rattrape peut-être même des matchs au premier tour. Donc, forcément, je suis d'accord que le plancher est forcément une élimination au premier tour.
Ce 7-8, là, c'est la différence. C'est un match qui vaut peut-être une finale de conf. Hein, parce que c'est un match dans lequel tu peux passer de sortir, te prendre un 4-0 par Boston, dont on a fait la preview hier, ou jouer des Bucks chancelants. Le plafond, j'évite cette question volontairement. Je sais pas, Amine. Je vais être honnête, je sais pas. Ça fait une semaine que je sais que je vais faire cette preview. Aujourd'hui, je sais pas, parce que le plancher, les pics de cette équipe sont trop hauts. Giannis est un top 3 NBA et sur ce principe seul, il devrait être capable de faire de grandes différences. Damien Lillard est un joueur qui a plus ou moins toujours répondu présent en playoff, à l'exception de quelques matchs, de quelques séries, mais globalement, c'est une valeur sûre. Ils ont des joueurs d'expérience. Je vais le dire comme ça. Pour moi, si tu me demandais de faire un power ranking des scénarios possibles des Bucks, je ne crois pas à l'élimination au second tour, par exemple. Pour moi, s'ils passent le premier, ils vont en finale de conf. Et limite...
Je vois très bien ce que tu veux dire.
Je vais dire une folie. Hein. Pour moi, s'ils vont en finale NBA, ils gagnent le titre. C'est-à-dire qu'en termes de scénario, de possibilité de scénario, je mettrais limite l'élimination au premier tour premier, l'élimination en finale de conf deuxième et le titre troisième. C'est-à-dire que pour moi, si tu arrives jusqu'à la finale de conf, c'est-à-dire que peut-être que Giannis est revenu en bonne santé, peut-être que l'équipe a réussi à cliquer, en gros, ils ne sont pas blessés, tout simplement, et tu peux espérer quelque chose. Rappelons qu'il y a très peu de matchs sous Doc, hein. Il y a une trentaine de matchs. Si tu fais deux séries à 10, c'est déjà énorme, en fait. C'est genre 25% de ton expérience Doc qui est sur des matchs de play-off, par exemple. Donc, je dirais que cette équipe-là, pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de potentiel, potentialité de tout le plateau. À cause de l'Est, on va être honnête, parce que l'Est est trop ouvert.
Alors, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je pense que tu ne prends pas assez en compte une chose, c'est Doc Rivers. Doc Rivers, c'est la vérité. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais on parle de Doc Rivers qui s'est fait éliminer avec une bonne équipe de Philadelphie contre les Hawks en demi-finale de conférence, contre des Hawks moyens. On sait qu'ils étaient moyens. Donc, et je ne parle pas que de Doc Rivers à Philly, je pense à Doc Rivers du côté des Clippers, je pense à Doc Rivers dans son histoire. Je pense qu'il y a un facteur à prendre en compte, c'est que ce n'est pas, je ne veux pas être méchant avec Doc Rivers, qui n'est pas un mauvais coach, mais son surnom de Choke Rivers n'est pas galvaudé. On parle d'un entraîneur qui s'est fait remonter des 4-1, des 3-1, pardon, plusieurs fois. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a une variance qui fait que je suis d'accord avec toi que le plus improbable, ce serait une élimination demi-finale de conf. Et pourtant, je pense que c'est aussi carrément possible que ce soit exactement ce qui arrive parce que Doc Rivers. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends parfaitement.
Contre New York ou contre Cleveland, tu vois, quelque chose qui est le moins attendu possible, finalement.
Non, effectivement, le facteur Doc me terrifie. Moi, je dirais juste que par rapport à Doc, qui a un coach qui a des casseroles de ouf en playoff, ce qui me rassure un peu, c'est que, en gros, s'il venait à jouer Denver, s'il venait à jouer Boston, bah, en face, il n'a pas Spoelstra, il a pas Nick Nurse.
Ouais, mais il va peut-être avoir Nurse ou Spoelstra avant, au premier tour.
Avant, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me terrifie, c'est que c'est pour ça que je vais être honnête. Hein, à l'heure actuelle, tu me demandes de parier, pour moi, il saute au premier tour. C'est le truc le plus probable. Donc, par contre, sur des duels de coach, il sera toujours en déficit, je suis d'accord, mais je pense que le déficit sera moins grand, bizarrement, sur des demi-finales de conf ou sur une finale NBA, sachant que, désolé aux fans de Denver, on en parlera demain, moi je suis pas le plus grand fan de Mike Malone. Moi j'attends.
Mais il perd contre les Hawks de Macmillan, Ben.
Oui, je sais. Je sais que l'argument Doc est implacable. Après, je maintiens. La seule chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est qu'ils ont bien fait de virer Adrian Griffin et peut-être que Doc, c'était pas si bien que ça. Mais je sais plus, Amine, on va être à 50 minutes, faut arrêter, mais
ouais.
Cette équipe, elle peut tout faire, mais encore une fois, je tiens à dire que non, je suis pas un exemple de mauvaise foi. À l'heure actuelle, je parie sur l'élimination au premier tour.
Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Je dirais juste pour terminer que moi, je verrais plus justement en maximum finale NBA. Peut-être que je vois un peu les Nuggets trop beaux, mais je pense que les Celtics ont des limites que les Bucks peuvent vraiment utiliser. Mais je pense que ça sera peut-être plus dur en finale NBA. Mais peut-être que je me trompe. Mais et puis j'ai du mal à voir justement Doc Rivers aller au bout une deuxième fois. Et ça me ferait presque mal.
Le traumatisme, Doc. Non, mais si jamais on aura le temps de faire des previews, si jamais ça se matérialise, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, mon problème avec Boston contre Milwaukee, c'est que les trucs que Boston ne fait pas, c'est ce qui pose problème à Milwaukee.
Okay. C'est ça, exactement. Bon, comme tu as dit, on a fait 50 minutes, donc je pense qu'il est temps pour nous de nous quitter. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour les tout derniers épisodes de nos previews, de notre format « Pourquoi votre équipe ne va pas gagner le titre ?». En attendant, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour avoir tous les épisodes, pour pouvoir revenir avec nous et commenter, nous donner votre avis sur les épisodes. On est très content d'avoir vos avis et on essaie d'y répondre le plus souvent possible. Enfin, quand je dis « on », je parle de Ben, très clairement.
Très rarement, je suis désolé.
Qui va quand même finir vraiment épuisé par cette session. Je ne vous rendais pas compte du travail qu'a fourni Ben et je vous incite à le féliciter. C'est extraordinaire. Nous, on est des petits joueurs à côté dans l'équipe. Et voilà, donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Et à toutes.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.